Qu'est-ce qu'un maître ? Un homme de bonne foi, qui attend tout de lui-même, qui n'attend rien des autres, et à qui l'autorité vient d'abord du refus de soumettre. Quand il est Bergson, par exemple, le maître fait silence en lui-même et donne la parole, comme on donne le souffle, à la vitalité qui le déborde. Quand il est Diogène, le maître sent le poisson, se masturbe en public et fait reculer les empereurs. Quand il est Flaubert, le maître vous attend, figurez-vous, à la gare, dans un pantalon calabrais. Quand il est Albert Camus, le maître publie au printemps un livre sur l'été. Mais quand il est Deleuze, le maître veut penser ce qui résiste à la pensée. Quand il est Dieu, le maître a tout son temps. Quand il est Sartre, le maître est fier de ses diplômes. Quand il est Freud, le maître constate en dormant qu'on ne marche qu'à tâtons sur la voie royale qui mène à l'inconscient. Quand il est Leibniz, le maître fait semblant de croire. Quand il est Descartes, le maître fait semblant de douter. Quand il est Nietzsche, enfin, le maître est un vagabond à qui l'inspiration survient dès qu'il ne cherche plus. Est-ce qu'on peut dire, Rémy Mathieu, que quand il est Confucius, le maître est, au contraire d'un donneur de leçons, aussi lent dans ses paroles que diligent dans ses actes ?
Il est effectivement diligent dans ses actes. C'est tout à fait essentiel.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par diligent dans ses actes ?
Eh bien, il est attentif au moindre de ses gestes, dans la mesure où ses gestes traduisent bien évidemment son intention, sa bonne volonté et l'examen de conscience auquel il procède, dit-il, chaque jour. Attentif également à ses gestes, dans la mesure où ces gestes sont en rapport avec le rite, qui est le cœur du confucianisme. On a dit peut-être un peu simplement que l'humanisme ou la notion d'humanité était centrale chez Confucius, mais que le rite est central dans le confucianisme.
Rappelons ici tous ces termes essentiels. Ce que j'appelle indûment « reine », dont vous m'avez dit qu'il fallait le dire «
gêne »,
c'est-à-dire la vertu d'humanité.
C'est cela.
Voilà.
Oui.
Le sens des rites, la place du souffle. Tous ces termes-là, qui sont des termes qui nous sont fatalement peu familiers, sont les piliers, les pilotis d'un système ou d'un antisystème confucéen.
D'un système, de ce qui deviendra un système. Et je distinguerai
au-delà
là,
de lui.
Voilà, je distinguerai là à la fois, d'une part, la doctrine confucéenne qui ne forme pas encore un système et le confucianisme qui surviendra chez ses disciples, chez ses héritiers, qui va se constituer peu à peu en système, plus ou moins ossifié, les siècles passant, mais qui au départ n'est qu'un ensemble de préceptes, d'enseignements dispensé à ses proches disciples, 72, dit-on, et qui n'est pas encore structuré. On voit bien, quand on lit les entretiens de Confucius, puisque je rappelle que Confucius n'a rien écrit, ce sont ses disciples qui ont écrit.
Il partage avec Épictète ou avec Socrate le privilège, un, de n'avoir rien écrit, donc d'avoir une parole totalement libre et vivante, et deux, d'avoir des disciples eux-mêmes assez respectueux pour essayer d'en restituer la valeur orale. Justement.
Respectueux, qui sait ?
Ouais.
Puisque quand on lit ses entretiens et quand on lit d'autres textes de ses disciples, on s'aperçoit qu'il y a quelques contradictions, quelques incompatibilités entre les propos rapportés par les uns et rapportés par les autres. Donc doctrine sans aucun doute, mais pas encore système. Alors doctrine essentiellement morale, on y reviendra évidemment, et philosophie politique. Les deux sont très intimement liés, puisque la pensée de Confucius est une pensée politique, c'est-à-dire le but de la recherche du bien en soi et chez les autres est dans un premier temps de se perfectionner, mais non pas de se perfectionner pour la grâce du geste, mais pour arriver à ce que ce perfectionnement de soi débouche sur celui du prince.
Et d'un art de gouverner.
Exactement.
On va revenir sur tout ça. À la fois l'importance du rite, la philosophie politique, l'art de gouverner qui passe par la rectification ou la correction des noms, et l'art de se perfectionner qu'on peut appeler, dans un rousseauisme confucéen, la perfectibilité. Avant cela, Rémy Mathieu, je voudrais qu'on entende Marianne Bassler, dont la voix nous accompagne tout le temps de cette émission, lire un petit texte qui se termine sur l'idée d'un dépouillement nécessaire. sur lequel je voudrais vous interroger en le mettant en relation avec ce qu'on disait hier en compagnie de Paul Valadier du dépouillement que Jésus exigeait de ses disciples. Écoutons le texte en question.
Le maître dit « Honneur et richesse sont ce que l'homme désire le plus au monde. Et pourtant, mieux vaut y renoncer que s'écarter du Tao. Humilité et pauvreté sont ce que l'homme fuit le plus au monde, et pourtant mieux vaut les accepter que s'écarter du Tao. L'homme de bien qui se départ du gène n'est plus digne de ce nom. L'homme de bien est celui qui ne s'en départ même pas le temps d'un repas, qu'il se trouve pressé ou ballotté par les événements. Le maître dit « Un adepte du Tao est tout entier tendu vers sa réalisation. » Celui qui rougit d'être mal nourri ou vêtu ne vaut pas la peine que l'on s'entretienne avec lui.
Celui qui rougit d'être mal nourri ou vêtu ne vaut pas la peine que l'on s'entretienne avec lui. Jésus demande à ses disciples, pour le suivre, de se dépouiller de tout, de renoncer à tout. Et hier, avec Paul Valadier, on opposait cette méthode ou cette injonction christique à la fin de l'éthique de Spinoza, où Spinoza dit « ça n'est pas en, en luttant contre nos appétits lubriques », alors Spinoza parle de lubricité, mais peu importe ici, « ce n'est pas en luttant contre nos appétits qu'on parvient à la béatitude, c'est en parvenant à la béatitude qu'on parvient à lutter contre nos appétits lubriques et à s'en débarrasser ». Qu'est-ce qui a la primauté chez Confucius ? Faut-il se dépouiller de tout pour parvenir à une certaine sagesse, ou en tout cas pour suivre le maître, ou est-ce en suivant le maître qu'on parvient, comme une vertu collatérale, à se dépouiller de ce qui nous encombre, Rémy Mathieu ? Dans quel sens les choses s'opèrent ici ?
Oui, je dirais plutôt qu'il faut non pas se dépouiller de tout, la vie de Confucius d'une part, celle de ses disciples d'autre part, et surtout de ses héritiers, enfin, montre que cette voie n'a pas été véritablement suivie. Ce qui importe, c'est de se débarrasser au moins d'une grande partie de ses désirs.
De l'importance qu'on accorde aux apparats ou aux artifices.
Alors, pas seulement les désirs au sens le plus large du terme. Il cite la faim, la soif, les désirs sensuels, etc., et le désir de gloire. Mais il n'abolit pas pour autant l'aspiration de l'homme à satisfaire ses désirs à minima. Donc il n'y a pas une condamnation qui soit radicale chez lui. Ce qui importe, c'est effectivement de pouvoir éliminer suffisamment de soi dans sa relation à autrui pour que puisse se mettre en place cette humanité, c'est-à-dire cette vertu qui fait que je considère l'autre comme, je considère autrui comme un autre moi-même, comme mon égal en tant qu'être humain. Non pas dans une vision christique, pour reprendre
ni égalitaire
terme,
d'ailleurs.
Ni égalitaire, puisque je rappelle que la société chinoise est une société foncièrement inégalitaire, c'est-à-dire extrêmement hiérarchisée.
Et donc Confucius défend l'immuable hiérarchie.
Exactement. C'est un homme qui est très attaché à la hiérarchie sociale, à la hiérarchie familiale également. Donc il s'agit de respecter l'homme chez l'homme, mais non pas de respecter chez autrui ce qu'il n'est pas, à savoir un être inférieur ou un être socialement supérieur ou un être qui a une autorité naturelle comme un aïeul ou un père sur chacun de nous. Donc il faut bien distinguer là cette perspective qu'on peut trouver dans les sociétés démocratiques comme les philosophes grecs ou dans les sociétés chrétiennes qui sont les nôtres.
C'est ici, pardon Rémy Mathieu, qu'on trouve une tension, enfin d'un point de vue encore une fois occidental, quelque chose qui relève d'une tension et qui ne l'est pas forcément. Ce maintien de la hiérarchie chez Confucius est donc compatible avec une dignité égale au fond. Les individus ne sont pas au même endroit, ne sont pas au même niveau, mais ils sont égaux en dignité. Ça c'est le premier point sur lequel il faut revenir. Et un autre point également, là je m'adresse au sinologue que vous êtes, la graphie même du gène, qui dit donc le sens de l'humain, est composée du radical homme et du signe « de », manifestement. Je parle sous votre contrôle, qui désigne donc, par la graphie elle-même, l'homme comme homme uniquement dans sa relation avec autrui.
Exactement, oui. Cette graphie n'a sans doute pas été inventée par Confucius, puisqu'on la trouve dans des textes qui sont antérieurs à son époque, mais il les a utilisés dans un sens nouveau, qui est celui que vous venez de rappeler. Et d'ailleurs, ce procédé est intéressant, parce que Confucius dit de lui-même qu'il n'a rien inventé, qu'il n'a fait que transmettre. C'est à la fois vrai et faux.
Je transmets l'enseignement des anciens sans rien créer de nouveau.
Exactement, oui. C'est une modestie un peu excessive, parce qu'en fait, il a utilisé des termes qui existaient à son époque. Il n'en a pas créé véritablement de nouveaux, mais il leur a donné un sens neuf. C'est ça la révolution confucéenne. C'est à la fois la révolution humaniste et d'autre part l'utilisation de termes anciens avec une fonction nouvelle, une signification nouvelle, et cette ambiguïté quant à l'utilisation de ces mots qui troublent d'ailleurs bien des disciples. Si vous lisez attentivement les entretiens de Confucius, ce que vous avez fait, je le constate avec plaisir, eh bien vous apercevez que bien des questions dont des disciples portent sur la signification des termes qu'il emploie. Qu'est-ce que ça veut dire que cela ? Qu'est-ce que c'est qu'être bon ? Qu'est-ce que c'est que la mansuétude ? Qu'est-ce que c'est que la bienveillance ? Qu'est-ce que c'est que l'humanité ? Qu'est-ce que c'est que le respect du rite, etc. À chaque fois, c'est le maître qui répond et qui impose sa vérité. C'est un homme qui ne doute pas de ce qu'il sait, qui ne doute pas non plus de ce qu'il ignore, d'ailleurs. Il faut lui reconnaître cela. Savoir, c'est savoir ce que l'on sait et savoir reconnaître ce qu'on ne sait pas.
Est-ce qu'en ce sens, on voit d'ailleurs à quel point Confucius n'était pas seulement le contemporain de Socrate, mais d'une certaine manière son équivalent, dans d'autres termes et sous d'autres latitudes, au fond, puisque ce rapport d'une ignorance consciente à sa propre ignorance est en soi une démarche profondément socratique. Est-ce qu'il y a chez Confucius, dans le rapport à ses disciples, puisque les entretiens ne sont que des conversations ou des discussions, je ne sais pas si on peut parler ici de discussions plus que de conversations, mais c'est une question rhétorique parce que ça saute aux yeux en fait quand on les lit, une vertu maïeutique à ces discussions.
D'abord, je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse de dialogue. On parle toujours
c'est
de
présenté
dialogue.
Sous cette forme-là.
Oui,
hein,
c'est présenté sous cette forme-là, mais ce sont des faux dialogues pour une grande part. C'est-à-dire que on s'aperçoit que bien souvent, le disciple est là comme un faire-valoir. Il est là pour poser la bonne question à laquelle le maître va apporter la bonne réponse.
Dans les dialogues de Platon aussi,
hein. Oui.
Bien souvent.
Mais
c'est parfaitement comme tu dis, Socrate, c'est exactement comme tu dis, etc. Oui. Les disciples sont bien conciliants, souvent.
Donc, dialogue, je doute un peu que ce terme s'applique exactement aux entretiens. Ce sont plutôt des leçons que le maître donne à ses disciples. D'ailleurs, il faut noter, bref parenthèse, que le rapport de ce maître à ses disciples et d'autres maîtres à leurs disciples reproduit dans une large mesure les structures sociales de la Chine de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un prince, un seigneur, avec des sujets à qui il impose un certain nombre de vérités et de propos assénés. Et on retrouve cette parole impériale chez Confucius. Certes, elle est en quelque sorte masquée, habillée par la modestie, qui est une valeur, une vertu chinoise reconnue depuis des millénaires, mais elle s'impose malgré tout à l'auditeur. Je reviens un peu en arrière sur votre propos concernant Socrate. Je ne suis pas sûr que le but de la manœuvre chez Confucius, ceci découlant de cela, soit réellement d'accoucher ses interlocuteurs. Elle est plutôt de leur faire découvrir petit à petit, non pas par rapport à ce qu'ils auraient en eux, mais par rapport à ce que lui va exprimer, un certain nombre de vérités qui ne se découvrent pas soudainement, mais qui apparaissent petit à petit à la faveur de questionnements multiples. Si vous observez bien la structure de ces échanges, vous apercevez que la vérité se découvre petit à petit, non pas à partir de ce qu'indique le disciple, mais à partir de ce qu'énonce Confucius. D'autre part, le deuxième point qui est, me semble-t-il, très important, c'est que la réponse de Confucius est toujours circonstancielle. C'est-à-dire que la réponse qu'il apporte à la question du disciple est toujours fonction de ce que le disciple peut entendre. C'est à ça qu'on reconnaît le maître. c'est qu'il n'y a pas une réponse dogmatique qui est toujours la même, qu'il suffit de répéter à chaque fois que telle et telle question est posée. Non, il faut tenir compte des circonstances d'une part, de l'auditeur, de la capacité de cet auditeur à entendre ce qu'on va lui dire. Et c'est ce qui fait que le confucianisme est un non-dogmatisme. Il n'a pas toujours été, puisque dans les siècles qui ont suivi, il a été ossifié comme bien des doctrines. On pense évidemment en Occident au marxisme, et le confucianisme n'a pas dérogé à cette règle. Mais au départ, c'est une doctrine qui est absolument non dogmatique. Et je l'ai qualifié un peu par humour, évidemment, de situationniste, dans la mesure où elle s'attachait à définir avant tout les circonstances, les situations et la caractéristique de l'interlocuteur plutôt qu'à formuler une réponse ferme et définitive.
De sorte qu'on peut être non dogmatique tout en étant l'intercesseur d'un savoir, j'allais dire antédiluvien, mais en tout cas d'un savoir qui précède, c'est-à-dire d'un savoir objectif, qui consiste d'ailleurs bien souvent dans la transmission de rites, et on va voir en quoi cela consiste. Et on peut également comprendre, à la faveur de ce que vous dites, Rémi Mathieu, dans quelle mesure Confucius, on l'a cité tout à l'heure, déclare transmettre l'enseignement des anciens sans rien créer de nouveau, car, dit-il, il me semble digne de foi et d'adhésion, tout en disant, et c'est toujours lui qui le dit, ou en tout cas le personnage conceptuel reproduit par ses disciples, « Le bon maître est celui qui, tout en répétant l'ancien, est capable d'y trouver du nouveau. »
Exactement. C'est exactement la méthode, la façon d'agir de Confucius dans ses dialogues avec ses disciples et avec les princes. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais il y a toute une partie de la vie de Confucius qui ne se résume pas dans cet enseignement dispensé à ses étudiants. C'est le rapport qu'il a aux princes au pluriel, c'est-à-dire à ceux qu'il a tenté d'influencer, dont il a voulu rectifier non pas tant le système politique, parce que Confucius n'a jamais pensé à un autre système politique que celui qui existait en son temps et qui existait presque jusqu'à la fin de l'Empire, en 1911, c'est un homme qui a toujours pensé que par la morale, par la réflexion résonante, on peut amener les seigneurs, les gouvernants, à modifier leur attitude et par là même à modifier une politique. Eh bien, ce rapport est tout à fait important dans sa vie. Il est important parce qu'il s'est acharné à les convaincre qu'il fallait le gouvernement des sages, à la fois le sien, mais aussi celui des princes devenant sages. Et cette tentative réitérée a toujours été un échec. C'est un homme qui a totalement échoué sur le plan politique. Autant le succès de son enseignement, de sa doctrine...
Ça fait un point commun de plus avec Socrate.
Oui, mais alors chez lui, ça atteint vraiment des sommets. C'est-à-dire, c'est un homme qui est désespéré du monde politique, qui n'a jamais compris, si je peut me permettre cette pique à son endroit, ce qu'était la politique. La politique ne se résume pas à une posture morale, à des gestes bien mesurés, à une parole sensée, ainsi de suite. Les intérêts de l'État sont des intérêts voraces qui ne se résolvent pas toujours avec des bons sentiments et moins encore avec des leçons d'éthique.
Il n'y a dans ces vénérables conversations ni démonstration, ni long développement, ni même un vrai dialogue, mais plutôt des aphorismes, des anecdotes, des répliques fulgurantes et des considérations inattendues ou intempestives. On y voit le maître en situation, tantôt calme, tantôt triste, tantôt humble, tantôt désespéré, qui préfère l'apprendre au savoir et qui apprend moins pour les autres qu'auprès d'eux et dans l'échange avec eux. L'esprit n'est pas séparable du corps ni la théorie de la pratique. Le processus de connaissance engage l'action et Confucius, finalement, peut-être, ne dit rien qui ne soit lié d'une façon ou d'une autre au souci nécessaire de vivre mieux.
La voix règne sous le ciel lorsque les cérémonies rituelles, la musique et les expéditions punitives sont dirigées par le Fils du ciel en personne. La voix ne règne plus si elles sont prises en main par les vassaux, lesquels restent rarement au pouvoir plus de 10 générations. si elle se trouve dévolue au grand ministre, ceci ne reste guère plus de 5 générations au pouvoir. Enfin, si la charge de l'État est usurpée par les intendants des grandes maisons, leur pouvoir ne saurait se maintenir plus de 3 générations. Lorsque la voix règne sous le ciel, ce n'est pas au ministre de décider de la politique, et les simples sujets n'ont pas lieu de la discuter.
Est-il vrai, Rémi Mathieu, que l'émergence de la philosophie de Confucius ou de sa pensée est contemporaine d'une perte de prestige du souverain qui, en un sens, donne le branle à une pensée philosophique qui pourtant se donne manifestement pour objet, malgré tout, de préserver quelque chose?
Oui, Confucius arrive intellectuellement, j'entends, à une époque qui se définit comme étant celle des ce qu'on appelait les printemps et les automnes, et précède de fort peu une autre période beaucoup plus agitée qui est celle des royaumes combattants. C'est l'époque effectivement où la dynastie régnante, la dynastie des Zhou, est en pleine décadence, pour ne pas dire déliquescence, et où Confucius s'aperçoit que ce qu'il lit dans les textes antiques, ceux qu'on appellera plus tard les classiques, eh bien, ça ne correspond guère à ce qu'il observe. Il observe des complots, des assassinats, des guerres incessantes, bref, tout fout le camp, comme nous dirions de nos jours, déjà. Et il pense, d'une façon très optimiste, que l'être humain peut être amélioré, peut être rendu perfectible par des leçons, et que par là même, les choses peuvent rentrer dans l'ordre en rétablissant une ancienne morale, celle qui prévalait au début de la dynastie et même avant, à l'époque des saints empereurs, période de mythologie à laquelle tous les penseurs chinois se réfèrent. Et il va donc tenter de retrouver cet esprit perdu, lui semble-t-il, pour le proposer, voire l'imposer à différents auditeurs qui sont les officiers de cour, à la fois de la sienne et des cours voisines. Je rappelle que la Chine de l'époque est constituée d'un ensemble de principautés qui guerroient.
Qui ne sont pas encore unifiées, au fond. L'une d'entre elles n'a pas encore pris le pouvoir sur les autres pour établir ce qu'on appelle un État chinois.
Voilà. La fondation de l'Empire en 221 avant notre ère est encore très lointaine, puisque je rappelle que nous sommes là entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère.
Oui, on est alors là, pour le coup, pardonnez-moi le parallèle, peut-être est-il pertinent d'ailleurs. Ça rappelle un peu la démarche de Machiavel, dont le prince s'achève sur une exhortation à libérer l'Italie des barbares et un appel à l'unité italienne, qui est encore très très lointaine.
Mmh. Alors, il n'y a pas cette ambition-là chez Confucius. Il n'y a pas de barbares, enfin du moins les barbares sont aux marches de l'Empire et ils ne menacent pas, ou du moins pas vraiment, les cours de Chine.
Mais il y a le goût d'une unité peut-être.
Il n'y a pas vraiment de goût d'unité.
Comment se fait-il que Confucius soit brandi à ce moment-là, depuis toujours, avec des phases de déshérence malgré tout, mais
alors pas depuis toujours, c'est-à-dire qu'il est brandi, comme vous dites, non pas depuis la fondation de l'Empire, puisque l'Empire est fondé contre Confucius. Je rappelle que le premier empereur, Qin Shi Huangdi, est celui qui a massacré les lettrés confucianistes. Pas tous, mais en tout cas une bonne partie d'entre eux, qu'il a fait enterrer vivant, qu'il a fait brûler les livres de Confucius et de ses disciples, et d'ailleurs bien d'autres livres, et que son pouvoir impérial s'est établi contre les valeurs fondamentales du confucianisme, qui sont celles de la vertu, du devoir, de la bonté, de la mansuétude, de la bienséance, de la bienfaisance et autres règles d'humanité, ce qu'on appelait la doctrine légiste, dirigeait la pensée du premier empereur. Donc c'est la seconde dynastie, la dynastie des Han, qui a été fondée quelques années après, en 206 avant notre ère, qui, au bout de quelque temps, vers le milieu du IIe siècle avant notre ère, a choisi l'empereur Wu, pour ne pas le nommer, l'empereur Wu a choisi Confucius, non pas comme un être particulièrement référentiel sur le plan moral, mais parce qu'il incarnait les vertus qui étaient utiles à l'Empire pour la classe des lettrés, c'est-à-dire le service du souverain, c'est-à-dire l'absolue obéissance, le respect de la hiérarchie. Il fournissait une morale à l'ensemble de la population, et pas seulement à la classe des lettrés et à l'aristocratie. Il avait également une pensée politique qui était compatible sur le plan des institutions avec ce qu'était devenu l'Empire de Chine. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres motifs, il a été choisi comme idéologue officiel de l'Empire. Il l'est resté jusqu'en 1911. Et sans extrapoler à l'excès, on peut noter qu'aujourd'hui encore, pouvoir chinois rend hommage à Confucius et à sa notion d'harmonie sociale.
Au point que, paraît-il, une statue de Confucius se trouverait dans l'enceinte de l'Université du Peuple à Pékin.
Alors d'une part et d'autre part...
Ce qui est quand même très étrange quand on pense, encore une fois, au fait, alors certes contradictoire avec ce qu'il appelle la perfectibilité, avec ce qu'on appelle la perfectibilité ou l'art de se perfectionner soi-même, mais c'est quand même contradictoire avec le fait que Confucius est un défenseur de la hiérarchie. Et que le système qui le brandit en l'occurrence, ou qui le situe, qui met sa statue, son effigie à l'intérieur de l'Université du Peuple, revendique, certes faussement, un idéal égalitaire.
Certes, mais vous observez qu'il y a eu, pour le pouvoir communiste, deux attitudes radicalement opposées.
Ça, c'est avec Deng Xiaoping que les choses ont changé ?
C'est avec... Alors, d'une part, je rappelle qu'à la fin de la période de la Révolution culturelle, il y a eu une gigantesque campagne de critique de Confucius, qui s'appelait « Critiquer Confucius, critiquer Lin Biao », qui, je souligne, était un héritier présomptif de Mao Zedong. Et cette critique de Confucius était une critique de gauche, c'est-à-dire un des préceptes de Confucius qui était le plus violemment critiqué était précisément celui qui imposait de se perfectionner soi-même, de se maîtriser soi-même, de prendre la maîtrise à la fois de son corps et de son esprit, et d'en revenir au rite. Et donc, cette critique de gauche qualifiait Confucius de réactionnaire, de défenseur des classes possédantes, ce qui n'était pas fondamentalement erroné, il faut bien le reconnaître. Par contre, le gouvernement actuel envisage les choses d'une autre façon et fait l'apologie de Confucius pour de tout autre raison, à savoir que Confucius est l'apôtre de l'harmonie sociale, c'est-à-dire de ce qui permet dans les forces qui sont en action dans la société et dans le monde politique d'établir une sorte d'équilibre des forces contradictoires qui s'y jouent. Et d'autre part, il fournit une morale. Or, la société communiste actuelle, du moins le pouvoir communiste actuel, n'a plus de morale à proposer, puisque la morale, au sens où l'entendaient les turiféraires de Mao Zedong, est totalement décrédibilisée. La morale traditionnelle ne peut pas, ou du moins difficilement, être mise en avant. La morale occidentale ne peut pas non plus l'être à moins de se référer à des valeurs chrétiennes. Donc il n'en reste qu'une, qui est celle de Confucius. Enfin, dernier point, Confucius apparaît à la génération actuelle de dirigeants comme étant en quelque sorte l'image même de la Chine éternelle, c'est-à-dire celui qui procure le sentiment non seulement d'éternité, mais l'expression la plus élevée de ce que peut être la culture chinoise, la sinitude. Et ce sentiment d'unité nationale, le pouvoir actuel en a plus que jamais besoin. Et c'est la raison pour laquelle il est utilisé, parfois à contresens d'ailleurs, mais parfois aussi en s'appuyant sur des propos qu'il aurait réellement tenus.
«
Confucius est moins un philosophe au sens occidental du terme qu'un maître de vie, un professeur d'humanité ou un homme d'expérience à tous égards, qui réanime la parole des anciens, la voix royale de l'Antiquité, avec le souffle frais de l'expérience vécue. De sorte que, même si elle exige l'étude des textes anciens, l'éducation chez lui, semble-t-il, n'est pas plus livresque que chez Rabelais ou Montaigne, qui étaient les hommes les plus cultivés de leur temps. « Les plus belles âmes, dit Montaigne, sont celles qui ont le plus de variété et de souplesse. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que de retrouver ces vertus chez Confucius que l'histoire présente souvent uniquement comme le héros des hiérarchies et le gardien des temples. À le lire, à l'entendre, pour cet homme de tradition, il y a toujours plus de choses sur la terre et le ciel que toute la tradition n'en a jamais rêvé. »
Le Dao de la grande étude consiste à faire resplendir la lumière de la vertu, être proche du peuple comme de sa propre famille, et ne s'arrêter que dans le bien suprême. Savoir où s'arrêter permet d'être fixé. Une fois fixé, l'esprit peut connaître le repos. Le repos conduit à la paix à la réflexion. La réflexion permet d'atteindre le but. Toute chose a une racine et des branches, tout événement un début et une fin. Qui sait ce qui vient avant et ce qui vient après, celui-là est proche du Dao. Dans l'Antiquité, pour faire resplendir la lumière de la vertu par tout l'univers, on commençait par ordonner son propre pays. Pour ordonner son propre pays, on commençait par régler sa propre maison. Pour régler sa propre maison, on commençait par se perfectionner soi-même. Pour se perfectionner soi-même, on commençait par rendre droit son cœur. Pour rendre droit son cœur, on commençait par rendre authentique son intention. Pour rendre authentique son intention, on commençait par développer sa connaissance et on développait sa connaissance en examinant les choses. C'est en examinant les choses que la connaissance atteint sa plus grande extension. Une fois étendue la connaissance, l'intention devient authentique. Une fois l'intention authentique, le cœur devient droit. C'est en rendant droit le cœur que l'on se perfectionne soi-même. C'est en se perfectionnant soi-même qu'on règle sa maison. C'est en réglant sa maison qu'on ordonne son pays. Et c'est lorsque les pays sont ordonnés que la grande paix s'accomplit par tout l'univers. Pour le Fils du ciel comme pour l'homme ordinaire, l'essentiel consiste à se perfectionner soi-même. Laisser l'essentiel au désordre en espérant maîtriser l'accessoire, voilà qui est impossible. Négliger ce qui vous tient à cœur en attachant de l'importance à ce qui n'en a pas, voilà ce qui ne s'est jamais vu.
Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. Celle-ci est une gamine qui tient tellement à sa peau qu'elle baisse ses yeux en creux de Chine, mais jamais son kimono. Les femmes, c'est du chinois.
Rémi Mathieu est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans une semaine sur les maîtres, et c'est de Confucius que nous parlons aujourd'hui. Confucius, c'est-à-dire la voix de Marianne Bassler.
La nuit fait du jiu-jitsu, il faut vous accrocher à ses nattes, sinon c'est elle qui prend le dessus. Les femmes, c'est du chinois, le comprenez-vous, moi pas. Celle-ci est une fillette qu'on ne mange pas avec les doigts. Il faut la prendre avec des baguettes, sinon elle ne veut pas. Les femmes, c'est du chinois.
Rémi Mathieu, Confucius est le penseur de la perfectibilité. Ce qui, pour le dire autrement d'ailleurs, correspond assez près à l'idée que l'homme est un animal imparfait et qui donc, à cet égard, est susceptible d'un progrès. Ça, c'est le sens que Rousseau lui-même donnera à ce mot, qu'il invente, le mot de perfectibilité. Comment concilier
chez Confucius, ce rapport donc à la perfectibilité, la liberté qui est faite à l'homme de progresser, cette imperfection fondamentale qui lui permet donc de progresser, également, alors là, chez Rousseau, d'entrer dans l'histoire, ce que Rousseau déplore, mais ça c'est une autre histoire, et avec cette fixation par les rites. Est-ce qu'une telle contradiction entre l'attachement des rites et la perfectibilité vient du fait qu'on se représente l'attachement aux rites comme une façon de les maintenir dans toute leur rigidité et de manière irréfléchie? Est-ce qu'il y a véritablement contradiction, bref, entre ce sens du rite et la place qui est faite à la possibilité pour un homme de progresser?
Il n'y a aucune contradiction dans l'esprit de Confucius et de ses héritiers.
Alors mettez-le-nous dans notre esprit.
Oui.
Dans quelle mesure n'y en a-t-il pas?
Voilà. Alors, d'une part, quelle est la nature de l'homme? À cette question épineuse qui ne va cesser de se poser dans la philosophie chinoise et en particulier chez les confucianistes, Confucius n'apporte pas de réponse. On sait qu'il a parlé de la nature humaine, mais on ne sait pas ce qu'il en a dit. Le seul passage qui existe dans les entretiens à cet égard n'indique pas la réponse de Confucius. Et cette réponse, elle va être donnée par deux des principaux héritiers de Confucius, à savoir Mencius, qui va vivre un siècle après, qui va dire que l'homme est naturellement bon.
Et qu'il répugne à la douleur d'autrui.
Exactement.
Il a un cœur d'or, au fond.
On peut dire cela, oui. Que la première pulsion qui se trouve en lui, c'est la pulsion de compassion. L'homme est naturellement bon et il est naturellement compassionnel. Et l'autre héritier de Confucius, qui se nomme Xunzi, maître Xun, qui vivra à peu près un siècle après Mencius, va dire très exactement le contraire. L'homme est fondamentalement mauvais. Il naît mauvais et tout ce qu'il y a en lui ne lui vient que de l'artifice.
De sorte que les rites sont des garde-fous.
Exactement. Ils ne sont plus que des garde-fous, mais ils sont entre autres choses des garde-fous. Donc le rite va participer à cette entreprise que Confucius va mettre sur les rails et que les héritiers dont je viens de mentionner les noms et les œuvres vont largement développer.
Mais alors comment peut-il donner le jour à une alternative dont les termes sont si contradictoires en apparence sans se contredire lui-même?
Non, parce que si vous naissez bon, vous n'êtes pas complètement bon dans toutes les situations, du premier jour de votre naissance au dernier jour de votre mort. Vous avez des circonstances ou des personnes qui vont croiser votre voie, votre chemin, qui vont vous amener à être plus ou moins généreux ou plus ou moins bon avec elle. Et donc la perfectibilité de l'homme va l'amener à être encore meilleur et à devenir ce qu'on appelle un homme de bien, c'est-à-dire l'homme qui recherche le bien pour lui-même en vue de le faire à autrui, et pour les plus persévérants, à devenir un sage. Donc si vous suivez cette voie-là, vous deviendrez peu à peu un homme sur la voie de la sagesse. Même si vous êtes né bon, vous n'êtes pas né sage. Deuxième hypothèse, vous êtes foncièrement mauvais. Moi aussi d'ailleurs. Eh bien, cette recherche de la perfectibilité va m'aider à être plutôt moins mauvais et à m'orienter donc vers cette bienveillance et mansuétude vis-à-vis d'autrui. Petite parenthèse, cette recherche est également considérée comme devant déboucher sur une action réciproque, c'est-à-dire ma bonté envers autrui suppose qu'autrui soit bon envers moi-même. Il faut bien avoir ça présent à l'esprit, cette bonté, cette mansuétude, cette bienveillance, cette humanité ne se considère que à titre réciproque. Donc, cette mansuétude, cette bienveillance, cette humanité, elle s'acquiert par un certain nombre de moyens. Le premier des moyens, évidemment, ce sont ceux que préconise Confucius, à savoir la réflexion morale, la conscience, l'examen de sa conscience qui doit avoir lieu chaque jour, sur chaque action, sur chaque parole, etc. Tout cela est bien connu chez lui. Mais l'élément qui s'ajoute d'une façon décisive à cette première étape est celle du rite, c'est-à-dire ce qui fait que nous nous comportons vis-à-vis d'autrui selon des règles qui sont unanimement admises, socialement parlant, et qui vont non seulement forcer le corps à se plier à un certain nombre de contraintes, importance du geste que nous avons entreaperçu tout à l'heure, mais également celle de l'esprit, puisque dans le geste, il y a également cette tension qui s'exerce sur l'esprit. Il y a une espèce de double mouvement. D'une part, Confucius dit qu'un rite ne vaut que par la sincérité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites un geste que vous faites preuve de respect ou que vous vénérez la personne à qui vous vous adressez.
Mais dans le même temps, la rectitude du geste confine à la sincérité.
Exactement, exactement. Il y a quelque chose d'un peu...
Là, on retrouve la réciprocité ici.
Exactement. Et c'est le geste qui, en quelque sorte, va forcer votre esprit à devenir vous-même sincère vis-à-vis de cette personne. Donc, le rite, et c'est cela qui est important, en particulier chez un auteur comme Xunzi, le rite est à la base de l'éducation. Il est même plus important que l'étude, qui est pourtant un des fondements, un des piliers, pour reprendre votre terme de tout à l'heure, de l'éducation confucianiste. Le rite est vraiment la base de cette éducation sociale et de cette auto-éducation.
C'est en cela que Confucius peut dire qu'il faut vaincre son ego pour se replacer dans le sens des rites.
Tout à fait, c'est exactement cela, parce que le rite est une contrainte sur soi-même avant d'être une contrainte vis-à-vis des autres.
Et est-ce en cela également qu'on peut comprendre, est-ce qu'au fond, quand Confucius dit lui-même « Je transmets l'enseignement des anciens sans rien créer de nouveau, car il me semble digne de foi et d'adhésion », est-ce qu'on peut interpréter ça en termes rituels par une sorte de passage du sens sacrificiel, religieux, et des artifices apparents qui l'accompagnent à une attitude intériorisée ?
Vous m'ôtez les mots de la bouche, puisque c'est exactement ce que je voulais souligner à propos des rites, à savoir l'origine du rite. Le rite a une origine religieuse, et donc sacralisée. Le caractère chinois même qui signifie le rite s'écrit avec la clé du sacrifice. Donc c'est un terme qui désignait à la fois le vase dans lequel se plaçait la liqueur d'offrande, et d'autre part, les gestes qui accompagnaient la présentation de ces vases sacrificiels. Donc, à l'origine, le terme a une signification religieuse et sacrée. Et Confucius, comme il le fait souvent d'ailleurs avec des tas d'autres expressions, des tas d'autres notions, va détourner ce sens originel du monde sacré vers le monde profane. Et il va donc l'utiliser non pas dans la relation du sacrificateur vis-à-vis de l'esprit, mais de l'homme vis-à-vis de l'homme. C'est ça l'importance du rite dans la pensée confucienne.
Donc, l'observance des rites n'est pas séparable d'une relation entre individus où culmine l'idéal de réciprocité.
Exactement, oui.
On va entendre, tiens, un texte qui revient sur cette question, qui distingue d'ailleurs à cet égard, et à juste titre, l'homme de l'animal. On écoute Marianne Bassler.
Un perroquet pourra apprendre à parler, il ne sera jamais qu'un oiseau. Un singe pourra apprendre à parler, il ne sera jamais qu'un animal sans raison. Si un homme ne garde pas les rites, bien qu'il sache parler, son cœur n'est-il pas celui d'un être privé de raison ? Les animaux n'ont aucune règle de bienséance. Aussi le cerf et son petit s'approchent de la même biche. C'est pourquoi les grands sages qui ont surgi dans le monde ont formulé les règles de bienséance pour enseigner les hommes et les aider à se distinguer des animaux par l'observation des rites.
De sorte qu'il y a un spécifiquement humain chez Confucius dont l'observation des rites est la marque distinctive, Rémi Mathieu.
C'est le fondement de l'humain. Il y a peut-être deux grandes distinctions entre l'homme et l'animal. C'est d'une part cette vertu d'humanité et c'est d'autre part le respect des rites.
Ce qui est quand même très étonnant, c'est que cette vertu d'humanité semble en appeler à la possibilité d'un progrès ou d'une mobilité de la conscience humaine. Et le rite semble, et là encore ce ne sont que des idées reçues, faire valoir l'ordre d'une fixation, l'ordre traditionnel au fond d'une fixation. C'est vrai que l'Occident oppose l'enracinement et le déracinement, comme on pourrait opposer le rite à la perfectibilité. Or ici, s'il faut peut-être retenir une chose de cette conversation que nous avons, c'est la possibilité prodigieuse chez Confucius de penser les deux simultanément et de les nourrir l'un de l'autre.
Exactement, oui. Le rite est effectivement une des bases de la perfectibilité de l'étude, de l'apprentissage par lequel doit passer tout être humain. Alors il dit qu'effectivement c'est ce qui distingue l'homme de l'animal, mais on ajoute ailleurs... je crois que c'est l'un de ses disciples qui dit que c'est ce qui différencie le chinois du barbare et ce qui différencie l'homme de bien de l'homme de peu. Donc on voit bien que le rite est un peu la pierre d'achoppement, hein, ce qui fait la grande différence et qui se trouve d'ailleurs au fondement même de la doctrine de Xunzi, cet important philosophe qui est assez peu connu en Occident et pourtant dans la pensée beaucoup plus développée, beaucoup plus pertinente que celle des premiers disciples. Lui insiste également sur l'importance du rite.
Ainsi, le dévoiement historique ou politique du confucianisme, le fait qu'on l'ait servi un peu à toutes les sauces, en définitive, qu'on se soit servi de sa parole pour agrémenter ou orner un projet politique, est-il explicable par le fait qu'on ait ritualisé Confucius sans l'aimer, c'est-à-dire sans le lire ou sans le comprendre, selon vous ?
On l'a lu, compris, commenté, plus qu'à foison, simplement...
Je parle de ceux qui s'en servent.
Voilà. On l'a utilisé comme l'utilisent tous les appareils d'État. Quand les appareils d'État ont besoin d'une idéologie officielle pour mener à bien leur politique, leur contrôle des populations, toutes les doctrines sont les bienvenues. Nous savons ce qu'il en est
en particulier celles qui récusent toute forme de subversion, celles qui affirment la souveraineté du prince et le maintien des hiérarchies.
Oui, tout à fait. Elle est particulièrement bienvenue, celle-là. Mais les exemples que nous connaissons en Europe et plus largement en Occident nous montrent que toute doctrine peut être utilisée, peut être détournée, du moment qu'elle est d'une part ossifiée, d'autre part considérée comme étant une valeur au service de tous et de l'État, eh bien celle-là peut faire office de garde-fou à tous égards.